Radio Grand-Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Cela fait plus de 30 ans que je connais Dick Morgan, un Américain qui naquit à Oursière, un vaste domaine à quelques kilomètres de Nogent-le-Rotrou. J'ai toujours été passionnée par le récit de sa vie et aujourd'hui, il termine l'écriture d'un ouvrage qui s'intitule Une famille de guerre. En fait, la chronique d'une famille américaine pendant les deux guerres mondiales. Un texte que Dick Morgan a écrit en anglais et qu'il a traduit en français. Ce récit, je dois le dire, chers auditeurs, est absolument passionnant, car c'est non seulement le récit de la vie d'une famille, mais c'est aussi la mémoire de deux guerres, 14-18, 39-45. Dick Morgan, bonjour.
Bonjour Christiane.
Alors, j'aimerais bien que vous nous brossiez peut-être un tableau de votre famille tout d'abord.
Eh bien, ma famille est profondément américaine depuis...
Le XVIIe siècle, je crois.
Oui, exactement, depuis le XVIIe siècle. Et ma mère étant originaire du Maryland, qui est un état du côte est, et c'était une des familles de propriétaires terriens.
Je crois qu'ils avaient un très beau manoir.
Pardon?
Ils avaient un très joli manoir, je crois.
Avec un beau manoir à Oakdale, près de Baltimore. Mon père est de la région de la Nouvelle-Angleterre, de Boston, et de spécifiquement de Plymouth, dans le Massachusetts, là où sont atterris les premiers pèlerins en 1620. Et la famille ne s'est pas beaucoup éloignée de ce lieu pendant quelques siècles.
Donc vous êtes véritablement américain.
À 100% américain.
Alors justement, ça, on va parler de votre nationalité au cours de cette interview parce que ça aussi, c'est très intéressant. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous évoquiez votre mère parce que vraiment, votre mère a vécu une jeunesse très privilégiée des jeunes filles américaines de la High Society.
C'est vrai, son père était devenu gouverneur de l'État du Maryland et était un homme d'affaires qui avait beaucoup réussi. Maman a reçu l'éducation de jeune fille de bonne famille à l'époque.
Elle était passionnée, je crois, par la musique, la littérature.
Les langues également. Les langues. Elle était devenue, parlait couramment le français dès sa jeunesse.
Oui, il faut dire aussi que dans votre famille, la France, c'est un pôle important.
Oui, la France est devenue un lieu tellement important que je suis moi-même naturalisé français.
Voilà, il y a peu de temps, je crois.
Il y a peu de temps de ça, mais voilà.
Alors, revenons sur le cheminement de la vie de votre mère, parce que c'est quand même une vie passionnante. Je crois que votre père lui a dit, eh bien maintenant que tu... Et une jeune fille accomplie, elle devait avoir 23 ans. Il faut que tu voyages pour connaître le monde, c'est bien cela.
C'est ça. Alors avec son frère, mon oncle, qui était un an de moins qu'elle, je crois, ils ont entrepris un tour du monde pour profiter du fait que deux cousins de la famille étaient ambassadeurs à Tokyo d'une part et à Pékin d'autre part. Alors c'est une occasion à ne pas manquer. Alors, ils sont partis visiter leurs cousins et ces nouveaux pays et se sont arrêtés, à un moment donné, sur la route, parce qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque, ils se sont arrêtés à Hawaï, à Honolulu. Il n'y avait qu'un seul hôtel, le Royal Hawaiian, qui était connu de tout le monde à l'époque.
Et c'est là que...
Là, elle a fait connaissance... d'un charmant jeune homme qui s'est présenté en disant qu'il est le comte Ledouhovski et qu'il était polonais Et il faisait lui-même un tour du monde, mais dans l'autre sens. Alors il est devenu tellement épris
de votre mère,
de maman qu'il a changé de direction pour accompagner ma mère et son frère à Tokyo.
Oui.
Et par la suite à Pékin.
Et donc votre mère est tombée amoureuse pendant le voyage aussi.
Oui, tout en lui faisant la cour, et maman est tombée amoureuse. Mon oncle était un peu effrayé par ses développements, ne savait pas quoi faire, et il a décidé de renvoyer sa sœur aux États-Unis sur l'Orient Express qui venait d'être inauguré,
oui.
Chaperonné évidemment à l'époque par, dans ce cas, la femme de l'ambassadeur italien. Alors maman est revenue à Baltimore,
oui.
Et a annoncé à la famille qu'elle avait l'intention d'épouser
ce Polonais.
Son Polonais. Alors, le gouverneur, son père, était un peu ahuri, ne connaissant pas du tout les familles du Gotha européen,
oui.
A envoyé un cousin à Varsovie pour faire des enquêtes sur la famille. Et arrivé à Varsovie, cousin s'est rendu compte et a pu donner des renseignements très positifs au gouverneur, en lui disant que les Lubavskis étaient parmi les plus grands propriétaires terriens de Pologne et qu'il y avait un oncle qui était cardinal et puis un autre qui devait aller devenir général des jésuites. Alors,
donc une très grande propriété.
Une très énorme, des énormes propriétés,
oui.
Parce que c'était une multiple famille, mais là, avec des terres un peu partout. Mais le chef de famille immédiat, le comte Léon Ledouhovski,
oui.
Avait ses terres en ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, près de Lvov, près de la frontière austro-hongroise.
Comme vous l'écrivez, c'était un vrai conte de fées pour votre mère.
Ah oui, oui, maman a vécu un conte de fées jusqu'à l'arrivée de la Première Guerre. C'était une vie qu'elle ne connaissait pas, elle avait l'habitude d'être une vie très confortable aux États-Unis, mais elle ne s'attendait pas au degré.
Oui, parce que là, c'était garde forestier, garde chasse, jardinier, valet d'écurie, et puis alors beaucoup
oui,
de personnel de maison.
Oui, il y avait tout ce qu'il fallait. Son beau-père, le comte Léon, avait un établissement encore plus somptueux que celui où se sont rendus. La propriété où s'est rendue maman, son époux.
On dit que les parquets étaient cirés par des jeunes valets
alors
en
chez lui,
feutrés.
Oui,
ils dansaient avec la musique d'un accordéoniste pour que les parquets soient bien cirés.
Oui, et il avait un valet particulier qui couchait en travers la porte de sa chambre. Et qui s'occupait de tous ses besoins, et qui servait personnellement son maître pour toute...
Et je crois que comme dans toute bonne famille, il y avait aussi une institutrice française.
Oui, parce que le français était la lingua franca, si l'on veut,
oui.
De l'aristocratie de l'Europe centrale.
Oui.
Et chaque grande famille avait d'habitude une institutrice française pour que les enfants apprennent le français.
Et alors, peut-être quand même signalez-nous ce qui s'est passé pour cette jeune institutrice, parce que donc elle était en Pologne, et puis qu'a fait votre mère plus tard, beaucoup plus tard ?
Beaucoup plus tard, dans les années 20, après la Révolution, dans une nouvelle vie,
oui.
Maman l'a fait venir à Orcières, Argentvilliers, Et elle s'occupait de la maison,
D'Orsière.
de la marche
Oui, elle était
de la
intendante en quelque
maison
sorte.
d'Orsières et du personnel.
Et pour la petite histoire?
Et pour la petite histoire, après le début de la Deuxième Guerre en septembre 40, l'instituteur d'Argenvilliers étant prisonnier, je pense, elle est devenue institutrice.
Voilà. Alors, revenons très vite à votre mère. Il va y avoir la guerre de 14. Et à ce moment-là, la vie paisible va complètement
Oui,
se transformer.
les propriétés des Ledovski étaient situées sur la frontière pratiquement austro-hongroise qui séparait l'Empire russe de l'Empire austro-hongrois. Et dans un premier temps, en 1914, les Russes ont lancé une offensive contre les Autrichiens qui a été réussie dans un premier temps. Alors, les propriétés des Lewski étaient donc derrière les lignes russes et ont pu continuer à vivre. Pas tout à fait comme avant, parce que la plupart des chevaux et des biens étaient réquisitionnés. Les maisons étaient réquisitionnées pour des hôpitaux.
Oui. Alors, il faut dire que votre mère a un enfant à ce moment-là, un an après son
Ah oui,
mariage.
ma sœur, ma demi-sœur Tony est née en février 14 à Tropol, qui était
Voilà.
à la propriété où était maman.
Alors, le ménage ne va pas très bien et
Non,
votre mère.
il y a eu un revers militaire très
Oui.
sérieux, où les Russes, forces russes ont dû reculer devant les Autrichiens. Et à la fin des années 16, ça a commencé à être très difficile et les propriétés qui étaient du côté russe de la frontière étaient rapidement occupées. Maman et son mari ont dû s'évader pour rentrer aux États-Unis.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons marquer une pause musicale. Avec Dick Morgan et nous parlons, nous évoquons la vie de ses parents. Nous avons déjà vu qui était la mère de Dick et nous en étions justement au moment où votre mère et son époux partent aux États-Unis. C'est bien cela.
Oui, il regagne les États-Unis et là, Vladimir ne se sentait pas très à l'aise avec sa famille américaine. Mais c'était quand même resté aux États-Unis pendant 2 ans et ils ont eu 2 autres enfants.
Donc la famille, c'était trois enfants.
Mais tout de suite après la fin de la Première Guerre, il y eut une guerre de libération en Pologne où les Polonais, avec l'aide très importante des Français, se sont battus pour leur indépendance contre les bolcheviks qui contrôlaient la Russie. Et c'est Vladimir, le mari de maman, voulait absolument participer à cette guerre de libération de son pays et retourna en Pologne pour s'engager et put voir son père dans sa propriété 2 jours avant que celui-ci fût assassiné par un groupe de bolcheviks qui ont envahi la propriété.
Et ça, c'était en présence de sa famille et de
En présence de sa famille, et sa femme et ses sœurs ont pu être cachées par les ouvriers de l'usine de betteraves qu'il y avait sur la propriété.
Alors, il faut dire qu'entre-temps, Louise et ses 3 enfants déménagent pour Paris. Elle loue un appartement et elle refuse de retourner en Pologne avec Vladimir. Et lui va aller à Paris. Et à ce moment-là, il va trouver un autre appartement dans un quartier pas très loin de son ex-épouse, si je puis dire. Seulement, il était vraiment décidé à ramener ses enfants en Pologne. C'est bien cela.
C'est exact. Et il avait conclu un accord avec maman, comme quoi il promenait les enfants
un après-midi,
après l'école, tous les après-midi. Et un jour, ils ne sont pas revenus de la promenade. Et il les a donc ramenés en Pologne. Et maman était
Alors, votre mère est désespérée. Elle est seule aux États-Unis et elle va chercher un avocat.
Oui, elle est seule en France, à Paris.
Oui, à Paris, oui. Pardon. Et donc, elle va chercher un avocat et c'est là. Et c'est là qu'elle va rencontrer un avocat charmant.
Oui, mon père qui venait d'ouvrir un cabinet d'avocat à Paris et chez des amis communs, il a fait la connaissance de pauvre mère.
Oui, tellement triste de ne pas avoir ses enfants.
Exactement.
Et donc Charles Davis Morgan. Et sa sœur jumelle aussi, Caroline, sont les 2 enfants de votre grand-père.
C'est ça, c'est exact.
Donc voilà comment les Morgan vont entrer dans la famille.
Voilà.
Alors ça, c'est aussi très important parce que faisait votre père à ce moment-là?
Bien, mon père, à l'époque où il a rencontré ma mère, venait être démobilisé de l'armée britannique où il avait servi pendant la Première Guerre. Comme c'était un grand amoureux de la France, admirateur de la France et de tout ce qui est français, avait décidé, en jeune avocat, d'ouvrir un cabinet à Paris. Et parmi un de ses tout premiers clients, il fit la connaissance de cette charmante dame qui avait perdu ses 3 enfants, dont les 3 enfants avaient été kidnappés.
Donc là, il va y avoir une grande affection et également, donc, ils vont se marier.
Ils vont se marier, mais pas avant d'avoir re-kidnappé les enfants.
Voilà, il fallait au moins retrouver les enfants. Ce qu'ils firent.
Oui,
alors racontez-nous cela d'ailleurs. Oui, alors comment ça s'est passé justement?
Ça s'est passé parce que maman avait reçu une lettre de l'institutrice française de la famille Ledovski, Mademoiselle de Galles.
Oui, qui était là.
Qui était toujours au service de la famille Ledovski. En lui donnant l'adresse dans les Carpates polonaises où Vladimir avait caché les enfants.
Donc là, elle retrouve ses enfants.
Alors ils ont monté une expédition pour reprendre les enfants et les ramener en France.
Alors, comment va être la vie de votre mère à ce moment-là?
Maman est revenue en France. Elle avait malheureusement perdu sa nationalité américaine parce qu'à l'époque, elle était devenue sujet russe au moment de son mariage avec Ledwovski, qui était sujet russe avant la première guerre. Et elle voulait à tout prix récupérer sa nationalité américaine. Et elle a donc reparti à Baltimore brèvement, le temps de se faire renationaliser américain, ainsi que d'obtenir un divorce.
Pour pouvoir se marier.
Pour pouvoir se remarier avec mon père, qui était tombé très amoureux de sa future femme.
Voilà. Alors vous allez naître combien de temps après ?
Moi, je suis né en 1928.
Oui.
Eux se sont mariés en 24, et moi, je suis né en 28.
Alors entre-temps, il y a la Première Guerre mondiale.
Entre-temps, avant, c'est-à-dire avant, il y a la Première Guerre mondiale à laquelle mon père avait participé dès le début, parce que même en tant que jeune Américain, qui connaissait bien la France, ayant eu une éducation assez cosmopolite, et il s'était engagé dans un premier temps dans une unité ambulancière créée par un de ses professeurs à Harvard. Et par la suite...
L'Ambulance Corps.
Oui.
Ai-je bien prononcé?
Et par la suite, il avait décidé de s'impliquer plus directement dans les combats et a réussi à se faire engager comme officier...
Dans la Royal Artillery.
Dans l'artillerie britannique.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, sa mère est inquiète de le savoir si loin.
Oui.
Et justement, en étant maintenant dans l'artillerie. Et il lui écrit, et je voudrais lire ce petit passage qui montre comme il était très gentil avec sa mère et qu'il essayait...
Il adorait sa mère.
Voilà. Il écrit, « Maman chérie, ne soyez pas trop inquiète à mon égard, mais essayez plutôt d'accepter cette période comme le font des milliers de mères françaises et anglaises. Un temps de sacrifice quand chacun donne ce qu'il peut. Je n'ai pas pour un instant regretté ce que j'ai fait et je suis confiant que vous et le colonel, après mûre réflexion, finiront par m'approuver. » Ça, c'est le 17 mai 1915. Alors, effectivement, il va donner à sa famille des descriptions de ce qu'il subit pendant cette guerre.
Oui, il était très lié avec sa mère et il lui écrivait presque tous les jours. Ses lettres étaient très parlantes et très émouvantes.
Oui, et c'est grâce à ces lettres que vous avez pu retrouver que vous avez écrit ce livre.
Absolument. Il a donc passé une période d'entraînement d'élève officier et 3 mois après, il est parti sur le front en France. Il a été envoyé en France.
Et alors en France, justement ?
Alors, arrivé en France, il était dans un premier temps dans une unité pas très intéressante, une unité de réserve d'artillerie de sa division, où il trouvait son inactivité très contraignante. Et ce n'est qu'après plusieurs mois qu'il a réussi à se faire transférer dans une des branches les plus dangereuses, si l'on veut, de l'artillerie, ce sont les mortiers de tranchées.
Oui.
Je ne sais pas si
rien
ça existe toujours.
Rien que le terme est lourd de sens.
Oui, exactement. Et là, il nous décrit vraiment d'une façon très émouvante la vie de tranchées, la vie que tellement de Français, d'Anglais et plus tard d'Américains à cette époque.
Je voudrais terminer par la lecture de ce petit passage d'une lettre qu'il écrit toujours à sa mère. « Je reviens d'un tour de 24 heures comme officier d'observation avancée dans les tranchées. Mes nouveaux collègues de l'infanterie étaient très accueillants et m'ont rendu aussi confortable que possible dans la boue. Je suis très enthousiasmée par mon nouveau travail et j'ai maintenant le sentiment confortant que je peux harceler le Boche. » Eh bien, si vous le voulez bien, dit que nous pourrons reprendre la suite de cette émission dans un mois pour évoquer non seulement cette première guerre, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. Merci à vous et on peut se dire dans un mois prochain.
Alors, avec grand plaisir et merci beaucoup, Christiane.
Je voudrais vous dire, chers amis, que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, Dick.